So it's now a great pleasure to welcome to this place.
J'ai le plaisir d'accueillir ici Monsieur David Grant, qui vient du Royaume-Uni, donc il a traversé la Manche pour venir, et nous l'accueillons. Il n'y a pas eu de grève et il a donc pu se joindre à nous, ce qui est un plaisir. J'aimerais rappeler à tout le monde que David est le président actuellement de CESAM, la Société européenne de simulation.
Hi, good afternoon.
J'ai préparé un paragraphe à vous dire en français pour vous faire comprendre les difficultés que j'aurais. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, je me suis dit, non, je ne veux pas me mettre dans cette situation ridicule. Donc, je vous présente mes excuses. Je vais parler en anglais. Cette discussion... Et il est ironique de noter que l'anglais n'est pas ma langue maternelle non plus. Alors, eh bien voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Comme Clément l'a dit, je travaille à Bristol, au Royaume-Uni, et comme vous l'avez peut-être vu, avant, il y avait une diapositive juste avant. Et mon cœur n'est pas là. Je viens de Cape Town, en Afrique du Sud, et je suis un exilé, et ça fait 25 ans que je suis en exil, et j'essaye toujours de travailler à mon retour, et un jour, j'arriverai à retourner en Afrique du Sud. On m'a demandé de vous parler cet après-midi de la simulation. Et d'abord, qui suis-je? Eh bien, un chercheur. Et je travaille également, j'ai une entreprise de consultants. Je n'ai pas beaucoup de temps pour mon entreprise. Mais bon, première chose à dire, c'est que j'espère que tout le monde serait d'accord si je dis la chose suivante. Les soins de santé représentent un droit, le droit de chaque être humain. Ah, je ne vous ai pas expliqué que je suis spécialisée en soins intensifs en pédiatrie. Et je viens d'une partie du monde où les soins de santé ne sont pas toujours aussi disponibles que le lieu où je travaille maintenant. Et le problème que l'on rencontre, c'est qu'il existe un paradoxe dans ce que je dis. S'il s'agit d'un droit humain fondamental, on peut aussi dire que ce qui m'est dû risque aussi de me tuer. Et vous connaissez peut-être ce rapport qui a été publié par l'Institut de médecine il y a 18 ans maintenant. Et Kate a parlé de l'adoption et où on en est par rapport à ce texte qu'on a adopté et comment on réagit. Et je voudrais dire qu'aux États-Unis, ce rapport a déclaré qu'il y avait entre 44 et 98 000 personnes chaque année qui meurent à cause de ce qui leur arrive quand ils se mettent entre les mains du secteur médical. Et on dit maintenant qu'il y a plus de 200 personnes par an qui meurent aux États-Unis simplement parce qu'ils se mettent entre les mains du système de soins et de santé. Et les causes de décès, c'est l'accès aux soins médicaux. Il y en a autant que des décès liés à l'oncologie, par exemple, ou au problème cardiaque. Et je pense que ça s'applique à tous les lieux où nous travaillons. Il y a eu un rapport publié en 2000 par Salim Donaldson qui disait qu'au Royaume-Uni, ils ont examiné plus que la mortalité, mais aussi la morbidité. Il y a entre 60 000 et 225 000 patients qui se trouvent dans des situations compliquées et complexifiées à cause de la mise à disposition des soins. Beaucoup d'articles disent qu'on a entre 12 et 17 000 personnes par an qui se retrouvent dans cette situation difficile. Et regardez, il y a un slogan qui dit « Nous ne tuons que 12 000 personnes par an ». Et est-ce que vous êtes prêts à voler avec nous? Et donc, si on examine l'évolution de la science de la sécurité, on voit un saut en avant. À l'époque, on parlait simplement de ce concept de l'âge de la complexité, des systèmes qui exigent une résilience, une Et le problème, c'est que la plupart des gourous, en termes de sécurité, pensent que les facteurs humains ne sont pas inclus. Mais si, beaucoup de nos organisations sont coincées dans les années 1800 ou 1800 ou 1900 même, dans la façon dont ils gèrent leurs organisations. L'autre chose que je voudrais préciser, trop souvent, on utilise le terme facteurs humains ou gestion de crise de façon interchangeable. Et je pense qu'on retrouve des recoupements, mais il y a d'autres concepts derrière. J'hésite donc à utiliser la gestion de ressources de crise. C'est pourquoi ? Parce que cette gestion des ressources lors d'une crise ne s'applique alors qu'à la situation d'une crise. Et si moi j'examine la définition des gens de gestion de crise, quand on voit la liste des compétences spécialisées ou non qui doivent être à disposition dans l'équipe pour gérer cette crise de façon positive, eh bien, on voit des différences. Et moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est que notre manière d'envisager les facteurs humains prenez l'individu et l'équipe. C'est là qu'on retrouve l'aspect CRM et non-compétences. Et voilà, en fait, c'est ça que je voulais voir avec vous. Une des choses qui m'interpelle, quand j'ai discuté avec mes collègues dans le monde entier, ils sont nombreux à gérer des programmes de facteurs humains ou de gestion de crise. Mais quand vous leur demandez l'impact de ces différentes organisations, souvent, ils n'ont pas d'éléments de preuve à fournir. Et quand on regarde l'énergie investie ou les activités investies pour mettre en place ces systèmes en termes d'industrie de l'aviation, regardez, il y a des collègues ici dans la salle qui viennent de l'industrie de l'aéronautique. Eh bien, on voit, c'est l'antithèse. Ce que nous voulons faire dans notre organisation, c'est examiner comment l'industrie de l'aéronautique a traité cet aspect sécurité et là où nous ne faisons pas les choses correctement. Alors, nous sommes en route, nous progressons, mais nous faisons partie de ces personnes qui ont été très impliquées en termes de formation de ressources humaines et de qualité individuelle. Mais l'impact reste à identifier. Et je crois que le problème fondamental, j'espère que c'est bien identifié, parce que sinon je me sentirais mal par rapport à mon organisation, mais on pourrait peut-être regarder certaines de ces stratégies de gestion de nos fournisseurs, notre personnel soignant. Regardez les cibles sont toujours des aspects de micro-gestion plutôt que de prendre en compte une approche complète, holistique. La conformité est mise en place en exigeant que le personnel atteigne des cibles qu'ils ne peuvent jamais atteindre. Et donc, ce qu'il faut arriver, ce qui est négatif, c'est atteindre une conformité et donc servir le maître au lieu de voir si l'aspect, si le tout répond à la nécessité, aux besoins. On a vu les diapos de Damien. Rappelez-vous la salle avec tout ce qui s'y passait. Regardez le chaos qui était visible. Eh bien, les gestionnaires de l'hôpital ne se sentent certainement pas très à l'aise en voyant cette diapositive. Et on se retrouve avec des services en concurrence les uns avec les autres. Il y a des personnes qui sont alors très démotivées. Un personnel soignant qui pense que je n'arriverai jamais à atteindre ma cible à cause des cibles que vous nous avez fixées. Je n'y arriverai jamais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Oui? Dites-le-moi, ça vous parle, oui ou non? Ah, eh bien, je suis ravie de voir que certains d'entre vous l'ont vu. Eh bien, pour moi, c'est bien le premier point que nous voulions attaquer, prendre à bras le corps. Et on voulait changer notre organisation. Regardez la passion et la curiosité. Beaucoup de personnes font partie du personnel soignant, non pas parce qu'ils veulent l'estime de tout le monde. Non, c'est parce qu'ils veulent être là et faire une différence dans ce monde. Et à nous de récupérer la passion, la curiosité du personnel soignant. Et nous voulons les encourager tous à innover. Et en parallèle, créer une organisation où l'enseignement qu'ils obtiennent ou qui leur est dispensé se traduit par des nouvelles attitudes. Donc, il faut enseigner non pas parce que ça se trouve comme ça, mais au contraire, organiser une formation, ce qui aboutira à un changement de façon de dispenser les soins, les propres, la façon dont on travaille, dont on vit dans son environnement. Et donc, le soin auprès des patients n'est pas le résultat de quelque chose qu'on les force à faire, mais parce que ça vient de l'intérieur de ce qu'eux font, ça vient d'eux. Il faut ainsi améliorer le moral des troupes, dirons-nous. Ça a été la première étape pour nous, le premier pas en avant. Je vous ai parlé de cette idée que l'enseignement doit être le résultat d'une vue ciblée et non pas arriver simplement par hasard. Et si on lit les publications, on voit qu'il y a des personnes qui cherchent à améliorer et à partir d'un point de départ et aller au-delà. Mais là où les gens ont la possibilité d'ouvrir leurs horizons pour arriver à atteindre ce à quoi ils aspirent, eh bien, ils arrivent alors à progresser, comme j'ai essayé de vous le dire dans mon introduction. Comment pouvons-nous y arriver? On a mis en place ces 5 différentes stratégies. Que la courbe d'apprentissage ne soit pas faite sur le dos du patient. Au contraire, arriver à identifier les différents signes de ce qui se passe et avancer comme ça. Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que la vitesse est bonne? Donc c'est bon. En y réfléchissant, cette idée de se contrôler soi-même et de comprendre qui l'on est et progresser à partir de ça permet ainsi cette idée, c'est que je voyage dans ma vie et je veux donc apprendre petit à petit à maîtriser quelque chose, mais maîtriser ça pour moi. Et quand on est un consultant comme moi, on peut s'imaginer, eh bien voilà, je sais tout, les autres viennent et m'écoutent et apprennent de moi. Ça n'est pas vrai. Au fur et à mesure de l'avancement de la technologie, je dois toujours me remettre en question. Et à la maison, eh bien, il n'y a que moi qui suis un homme chez moi, les autres sont des femmes, eh bien, je suis un novice, j'apprends tous les jours au milieu des femmes de mon foyer, c'est comme ça. Et alors, voilà une rubrique qui a été publiée par la clinique Mayo aux États-Unis, dans le Minnesota. Et donc, nous on apprend à partir d'une expérience. Et l'apprentissage est quelque chose qui ne finit jamais. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un domaine où rien n'est fait une fois pour toutes. À nous de prendre cet apprentissage à bras-le-corps. Et une des choses qui me frappe, c'est que souvent les gens discutent de formation d'équipe, de facteurs humains. Ils disent, ah je me souviens, il y a longtemps, on a eu un cours là. C'est comme si je vous dis quelque chose une seule fois, eh bien, votre façon de fonctionner sera changée radicalement et éternellement. Ça ne tient pas debout. En tant que communauté dans le domaine de la simulation, on parle toujours à nouveau de la formation et de la restitution. Et donc, cette introduction de formation d'une compétence commune, travail d'équipe, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, regardez dans la troisième colonne. La première chose que l'on fait, c'est qu'on envoie notre personnel, un mail, et ce courriel leur montre ce qu'ils vont faire. Et ensuite, on a un atelier de 4 heures. Et l'équipe discute des concepts et commence à déterminer des normes au sein de ceci. Après, on passe aux exercices de simulation. Alors, d'abord, la simulation, ensuite, sur le lieu de santé. Et ensuite, on a réfléchi à comment on pouvait introduire ce processus comme quelque chose qui n'est pas un épisode unique, mais quelque chose qui peut se répéter. Et il faut environ 18 mois, à notre avis, pour que l'équipe ou le service entier arrive à se développer suffisamment pour que cette approche soit intégrée dans leur quotidien en termes de discussion et de travail. Et pour moi, le Saint Graal, là où on sait qu'on a réussi, c'est quand ces équipes que nous observons de façon dans leur travail clinique prennent le temps de tirer les conclusions de cette expérience clinique, autant que lorsqu'ils ont fait une formation de simulation. C'est là que l'on sait qu'on a réussi. Et nous, trop souvent, on ne prend pas le temps d'apprendre à partir de notre expérience clinique. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais le temps. Il y a toujours d'autres choses qui se passent, d'autres urgences. Et alors, même si on ne leur a pas parlé de débriefing comme Kate et Damien l'ont dit, eh bien, ils utilisent le même langage. Quand je parle de cette technique de constat et d'investigation, eh bien, j'enseigne à l'équipe comment progresser. Et je veux, après, pouvoir laisser cette équipe pour que cette équipe elle-même utilisent la même méthodologie pour faire ça eux-mêmes. Et quand on revient 18 mois après, on les écoute et en fait, ils font la même chose. Ils utilisent le même langage que lorsqu'on a essayé de leur apprendre. Et ça, pour moi, c'est la preuve d'un changement d'attitude. Et donc, la simulation, dans sa forme fondamentale, la plus pure, c'est le novice qui avance, comprend ce qu'il a appris et le restructure en voyant le lien et l'interaction, l'interdépendance au niveau d'une compétence pratique qu'ils peuvent mettre en œuvre. La simulation, que fait-elle ? Alors, je sais, je suis en train de prêcher aux convertis, on est bien d'accord, mais plus que toute autre méthodologie, on place cette simulation sur leur courbe d'apprentissage et ainsi, elle augmente, elle devient plus aiguë et de plus en plus, ils vont plus loin. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'un autre patient arrive pour apprendre. Et les gens atteignent une compétence plus rapidement que s'ils n'étaient que impliqués dans une pratique clinique. Et ils arrivent souvent à un niveau de compétence très élevé, bien plus que s'ils n'avaient pas traversé le niveau simulation. Beaucoup des conversations que j'ai avec mes collègues cliniciens, ce sont malheureusement souvent, ils ont les cheveux argentés comme moi, c'est la vie. Et alors, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voulez vous amuser avec des poupées, c'est quoi ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas commencer à travailler avec les gens Parce que plus ils sont en pratique clinique et moins ils travaillent sur les mannequins, mieux ils s'en sortent. Moi, ce que je dis à mes collègues, c'est non, non. Rappelez-vous ce que je vous disais au début de la courbe d'apprentissage, l'aspect, le novice qui est inconsciemment incompétent. La personne la plus dangereuse dans le monde, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et si cette personne, eh bien, on la déplace sur la ligne de courbe d'apprentissage en les mettant dans une situation à leur faire croire qu'ils sont dans un environnement sans danger, eh bien, c'est grave. Et c'est là que la simulation a un rôle à jouer. Il ne faut pas s'arrêter là. Mais au contraire, le processus doit pouvoir se dérouler par une pratique clinique. Et le paradigme pour nous, c'est la simulation et l'enseignement à partir du patient sont représentés dans un continuum et vont de pair, simulation et expérience clinique. En termes des compétences non techniques, je ne vais pas en parler maintenant en détail, mais ce que nous essayons de faire comprendre à chacun, c'est qu'il faut comprendre les concepts de leadership, de suiveur, de compétences, de sa propre capacité, prise de décision. Et cet après-midi, je ne vais pas passer en détail ce qu'est notre programme, mais je vais mettre en exergue certains points seulement. Voilà les éléments que nous traitons dans notre formation, de notre programme de formation des facteurs humains. Et évidemment, il n'y a rien de très innovant, mais nous en parlons. Et d'abord, il y a l'évaluation de la situation, la prise de conscience de la situation, la prise de conscience donc avec ensuite la communication et la résolution de problèmes. On a des personnes qui travaillent ensemble dans ces différents niveaux. Un des grands mensonges, non, je n'appellerai pas ça un mensonge vraiment, mais une chose que je trouve absolument incroyable, c'est ce concept que les leaders d'équipe, eh bien, on passe des jours entiers à suivre des cours sur la réanimation. Et quand on regarde la littérature, on lit des articles sur les leaderships, c'est comme si les leaders deviennent leaders comme ça, d'un coup, sans pratique, alors qu'il faut arriver à les former à cette compétence qui est tellement importante. On a ainsi développé cet outil qui s'appelle Aspire, donc aspirer, et c'est comme si on utilise l'ABCD, etc. Tout le monde connaît l'ABC, d'accord. Donc, on les oblige en utilisant A au carré, S-P-I-R-E. On utilise ça. Et une fois par mois, tous nos étudiants en médecine, notre personnel infirmier participe à une simulation et pendant 1h30, ils réaniment un patient. Et pendant 1h30, ce qu'ils font, c'est qu'une des personnes a la possibilité d'être le leader de l'équipe. Et on leur apprend à pratiquer. Et ainsi, la compétence technique qu'ils essayent d'obtenir, ou non technique selon celle-ci, c'est être leader de l'équipe. Et c'est là-dessus qu'on fait un débriefing après. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avant que nous ayons adopté cette approche, on se posait toujours la question de, alors, qui va être le leader de l'équipe? Eh bien, le chef d'équipe, c'est toujours celui qui a le plus d'ancienneté. Eh bien, non. Très souvent, ce n'était pas la bonne personne qui devait l'être. Et maintenant, beaucoup de gens nous disent, depuis qu'on a changé cette structure, c'est formidable pour celui qui est le plus d'ancienneté, c'est de ne plus avoir à s'inquiéter d'être leader. Je peux travailler sur le patient. Et souvent, on pense que ce personnel qui a plus d'ancienneté, eh bien, on libère une partie de leur cerveau qui peuvent alors se concentrer sur l'aspect médical.
Nous rêvons encore du jour, même si ça arrive déjà un peu, du jour où la personne qui est chargée du patient, et c'est souvent l'infirmière, eh bien, que ce soit elle qui soit le chef d'équipe. Ce sont elles qui connaissent les patients le mieux, qui connaissent la structure et qui peuvent vraiment mener l'équipe. Et on se démarque aujourd'hui de cette idée qui consistait à dire que la personne qui est chef d'équipe doit tout savoir. Non, c'est toute l'équipe qui doit être mise à contribution. Et on leur demande également de partager leur schéma mental dès le début du scénario, à savoir, selon eux, quel est le problème par rapport à tel patient. Alors, je vous ai dit que je ne vous donnerai pas tous les détails, mais je suis très, très passionnée par cette approche. Donc, si vous en voulez plus, vous pourrez toujours me poser les questions. Alors, j'avais une vidéo. Est-ce qu'on peut la faire passer? J'aimerais beaucoup vous montrer cette vidéo. C'est une petite vidéo. Donc, je viens de vous parler des chefs d'équipe et des compétences des chefs d'équipe. Et il y a une chose dont nous voulions nous démarquer, c'est le fait que tout puisse reposer sur les épaules du chef d'équipe. Ah, vous allez la voir, la vidéo. Alors, on parle du mouvement ici et de la manière dont un mouvement se produit en quelques minutes ici. Et d'abord, on va essayer d'en tirer les enseignements. Donc, vous voyez une personne qui se ridiculise, qui se lève et qui se met à bouger. Et donc, c'est facile de suivre ce qu'il fait. Et donc, il a un rôle crucial. Il va montrer à tous les autres comment suivre. Et donc, il y a une deuxième personne qui le suit. Ça veut dire qu'en fait, le premier n'est plus le leader. Il y a deux personnes maintenant qui lead. Et donc, vous voyez que le premier qui le suit, eh bien, prend le rôle du leader. Et bien sûr, ça lui demande du courage de le faire. Et en fait, le premier n'est plus, en fait, le seul, le leader. Et donc, il autorise un fou, finalement, à devenir le leader. Et ensuite, vous en avez un deuxième qui arrive. Et donc, il y a les leaders et les suiveurs. Et ici, vous avez deux autres personnes qui arrivent et encore trois autres. Le mouvement se met en route et vous avez un point de bascule. Vous avez tout le mouvement qui se met en place. Et donc, plus il y a de personnes qui eh bien, se joignent au mouvement, et moins cela représente un risque d'être ridicule. Et d'autres personnes se rajoutent parce qu'ils n'ont pas peur d'être ridicules alors qu'avant, ils l'auraient été. Et donc, en une minute, vous allez voir que eh bien, nous allons avoir toute une foule et que finalement, ceux qui ne rejoignent pas ceux qui sont dans le mouvement sont ceux qui vont devenir ridicules. Donc, si vous étiez le premier qui tout seul a commencé à danser, comment est-ce que vous vous sentiriez? Bien sûr, ce qui est très important dans ce qu'il a fait, eh bien, c'est le mouvement et pas lui, et le fait qu'il ait considéré les autres autour de lui comme ses égaux. Ce qui est important pour le leadership, eh bien, c'est de bien comprendre qu'en fait, on met le leadership sur un piédestal trop important. À partir du moment où il y avait un leader, il ne se passait rien. C'est parce qu'il y a eu des suiveurs qu'il y a eu un leader. Et c'est ça qui est efficace dans le mouvement. Et si vous voulez lancer un mouvement, eh bien, il faut avoir le courage de suivre également. Si vous ne pouvez pas, eh bien, il faut avoir le courage d'être le premier qui se lève et qui va suivre le leader. Et si vous avez des enfants, vous savez qu'ils pensent qu'on danse tous comme ça, n'est-ce pas? Alors, voilà, ce que nous essayons de faire comprendre à notre équipe, c'est que le leadership dans une équipe, eh bien, il dépend également de ceux qui sont capables de suivre, et de suivre également en gardant leur esprit critique et leur indépendance de pensée. Dans nos pratiques scientifiques, nous avons évolué vers une idée de réseau sensible humain avec une cognition répartie. Donc, il ne s'agit pas uniquement de la fonction du leader, mais également de toute l'équipe qui doit être consciente du processus en cours. Nous utilisons également cette image des seaux. Est-ce que vous connaissez cette image? Est-ce que vous connaissez ce contexte? Alors, je suis désolée, c'est peut-être un petit peu impoli, mais c'est de la merde. C'est de la merde qu'il y a dans le seau. Et donc, s'il y en a trop dans le seau, eh bien, ça déborde. Autrement dit, si vous réalisez une tâche, vous avez le seau du moi, à savoir moi en tant qu'individu dans le cadre de cette tâche. Ensuite, vous avez le contexte de la tâche, à savoir quelque chose qui va augmenter la complexité de la tâche. Et puis ensuite, l'endroit où vous allez la réaliser. Et ce que nous faisons, c'est que nous nous concentrons sur le moi, sur l'individu, à savoir quelle est la capacité de l'individu en termes d'attention, en termes de mémoire de travail, en termes de limites, qu'elles soient physiques ou mentales, en termes d'état mental dans lequel ils arrivent, et puis bien sûr l'état physiologique également. Autrement dit, il est étonnant de voir le nombre de fois où un chirurgien vient vivre une altercation, par exemple, avec quelqu'un, et puis qui arrive au bloc opératoire et qui doit ensuite réaliser une chirurgie extrêmement complexe. Et on peut dire que là, il arrive dans un état qui n'est pas le meilleur état pour pouvoir réaliser son acte chirurgical. Donc, il est important de permettre aux gens d'être conscients de l'importance de leur préparation également. Et on parlait tout à l'heure de la maîtrise de la maîtrise du système, de la maîtrise de la personne également. Et ici, j'aimerais parler d'autre chose. Imaginez, vous avez formé les gens, ils sont allés aux ateliers et on va travailler sur les fonctions d'équipe. Donc, des équipes qui vont participer à des formations de ce qu'on appelle pratiques délibérées. Et nous essayons de les encourager à y participer une fois par mois sur leur lieu de travail et avec l'équipe avec laquelle ils ont l'habitude de travailler. Qu'est-ce que l'on essaie de faire? Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Nous savons qu'il y a différentes tâches à réaliser. Ils font un débriefing et on essaie de faire en fait ce qu'on appelle de la cognition répartie. J'aime beaucoup cette approche qui a été décrite par Damien Eckett tout à l'heure, à savoir le débriefing pluridisciplinaire. Pourquoi est-ce que l'autre a réalisé sa tâche de cette manière-là? Est-ce que peut-être je peux faire quelque chose qui va lui permettre de mieux réaliser sa tâche? Est-ce qu'il, lui, peut faire quelque chose qui va m'aider, moi, à mieux réaliser ma tâche? À savoir, c'est un modèle qu'on appelle de cognition répartie avec donc ce réseau sensoriel également qui permet d'évaluer exactement ce qui se passe. Et lorsque une équipe apprend de cette manière-là, eh bien, on se rend compte que cette équipe-là est capable de mieux anticiper, suivre, réagir à ce qui se passe et à chaque fois que cela se passe. Et c'est là que l'on réussit à mettre en place une résilience systémique, à savoir, il ne s'agit pas uniquement d'être capable de tous appliquer exactement la même méthode toujours, mais de mieux comprendre ce que l'on fait et de s'adapter au fil de l'eau. Et pas uniquement de tirer les enseignements des crises, mais également de chaque événement qui se produit. Et donc, c'est un modèle que nous avons intégré aux exercices de simulation. Et après environ 18 mois, ce que l'on constate, c'est que cette pratique, finalement, se transfère à la pratique clinique. Et c'est là l'objectif de l'exercice. L'objectif n'est pas d'avoir simplement un atelier et puis de pouvoir cocher une case disant que j'ai participé à l'atelier. Et dans le cadre des débriefings, lorsqu'il y a un événement, nous parlons avec l'équipe des différentes variables, les tâches, les équipements, l'environnement, l'organisation de cette journée-là et comment est-ce que peut-être elle a soit contribué à la performance ou a constitué un obstacle à la performance. Et donc, c'est vraiment important de parler à la fois du négatif et du positif. Peut-être que c'est une habitude britannique de toujours trop regarder les choses peut-être du côté positif, mais bon. J'aimerais vous poser la question. Si je vous demande de regarder cette photo à l'écran, est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve la différence entre les deux photos? Vous pensez tous que les deux sont exactement identiques? Où est la différence? Alors, malheureusement, les réponses sont données hors micro et l'interprète ne peut pas les entendre. Et si l'orateur parle hors micro, l'interprète ne peut pas l'entendre. Il faut lui dire de retourner au micro.
microphone, please. I'm sorry, I can't hear you.
Je ne suis pas encore interprète en langue des signes.
Donc, si je vous dis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que si vous êtes dans une situation de panique où vous devez vous dépêcher dans une salle comme celle de tout à l'heure, si vous regardez les deux ampoules et les boîtiers et les boîtes dans lesquelles elles sont, est-ce que ce sont les mêmes, à votre avis? Si vous devez aller à toute vitesse, oui. Alors, on va se baser là-dessus. En fait, celle qui est là, c'est de l'adrénaline. Et vous voyez qu'il y a un sticker adrénaline qui a été donc mis dessus, alors que l'autre, c'est de la morphine. Et donc, c'est quelque chose qui est ressorti d'un exercice de simulation mensuel. Et nous avons identifié ce problème. Et l'un des membres de l'équipe a identifié que c'était une menace latente dans l'environnement de travail, le fait que ces deux boîtes se ressemblent tellement. Alors, j'aimerais maintenant vous partager avec vous une situation clinique hypothétique qui aurait pu se produire dans un hôpital. Imaginez un jour un patient qui se présente, il est en salle d'anesthésie, on est en train de le préparer pour l'anesthésie et ce patient a donc un arrêt cardiaque et le médecin appelle l'infirmière, demande à ce que de l'adrénaline lui soit administrée et l'infirmière se dépêche et confond les deux ampoules et c'est de la morphine au lieu de l'adrénaline et le patient meurt doucement mais avec de la morphine et pas de l'adrénaline. Alors, comment est-ce que l'on traite cela? Eh bien, tout d'abord, l'objectif, c'est de regarder la mauvaise pomme dans le bon arbre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'institution, mais il faut trouver où est la pomme pourrie. Et ce qu'on fait, c'est une analyse des causes profondes. Est-ce que vous avez ce type d'analyse? Comment vous appelez ça? Est-ce que vous appelez ça une analyse des causes profondes?
RMM.
Je ne sais pas pourquoi je vous ai posé la question. Je savais que je n'arriverais pas à le prononcer en français. Enfin, bref. Donc, on fait cette analyse RMM. Et ce qu'on fait, c'est que, on se dit... qu'est-ce qui s'est passé? L'infirmière n'a pas revérifié si c'était la bonne ampoule. Alors, on va former l'infirmière. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne dit pas aux autres services. Pourquoi? Parce que c'est gênant. Et on ne pense pas au fait que le problème vient du fait que le conditionnement des ampoules est exactement le même. On n'évalue pas le système. Et donc, on ne change pas la conception du système. Et donc, c'est exactement le même problème qui peut se poser de nouveau. Et qu'est-ce que l'on fait dans le cadre des soins? On apprend toujours les mêmes choses, mais on ne règle pas le problème. On tire les mêmes enseignements des problèmes, mais on ne règle pas le problème. Alors, je suis toujours très, très nerveux lorsque je parle d'aviation quand il y a des gens de l'aéronautique dans la salle. Donc, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Alors, voici un vol BA-38, un des premiers vols qui partait non pas de Shanghai, mais quelque part en Chine, et qui arrivait à Heathrow, en Angleterre, en 2008. Donc, 2 ans avant... le problème sur le Hudson. Et donc, c'est un avion qui a atterri à Heathrow et alors qu'il s'apprêtait à atterrir, un ou deux kilomètres de l'aéroport, qu'est-ce qui s'est passé? Coupure totale des moteurs. Imaginez, c'est exactement ce qui fait peur aux gens. C'est pour ça que moi, j'ai pris le bateau pour venir. Il y a eu donc une descente très très rapide, très peu de temps pour pouvoir donc faire atterrir l'avion, mais ils ont quand même réussi cet atterrissage d'urgence malgré l'absence des moteurs. Alors,
La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé quelles ont été les performances humaines, les compétences des pilotes, parce qu'il n'y a eu finalement que 2 blessés. Donc on a regardé donc, quelle a été donc, la gestion des ressources, des équipages, et il n'y avait pas du tout de problème. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont regardé qu'est-ce qui se passait au niveau des équipements. Et à l'époque, c'était Gordon Brown, qui était donc au gouvernement, Premier ministre du Royaume-Uni. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que sa voiture était sur la M25, sur la M25, au moment où cet avion a eu son problème. Alors peut-être qu'il y a un lien entre le fait qu'il était juste en dessous et puis que les moteurs se sont arrêtés, mais on ne sait pas. Donc c'était 2 ans avant l'incident de Surly. En tout cas, il n'y avait pas de problème par rapport à tout cela. Donc la théorie, et c'est là que ça fait vraiment peur, je suis vraiment désolée si vous devez prendre l'avion après cette conférence, ce qui est important, c'est de comprendre que ce qu'ils se sont dit, c'est qu'il y avait donc de la glace dans les réservoirs de carburant et qui aurait eh bien, généré donc, un blocage en fait, sur donc, les injections de carburant vers les moteurs. Et donc, apparemment, il y aurait eu quelque chose qui aurait été mis au point pour faire fondre cette glace. En tout cas, ça s'était bloqué à l'époque. En tout cas, ça a mis en place, ils ont mis en place toute une enquête par rapport à tout cela. Donc, c'était difficile de prouver cette hypothèse. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé un simulateur pour pouvoir prouver que c'était vrai, que c'était bien cette hypothèse et qu'il fallait mettre en place une solution. Si j'étais pilote, moi, je ne pense pas que je pourrais faire cela. Donc, quand vous êtes en chute libre comme cela, on vous demande de vous mettre au point mort. Donc en position neutre parce que ça va faire fondre la glace et ça va permettre de récupérer le carburant pour que ça arrive jusqu'au moteur. Et donc c'est ça le plan qu'ils ont mis en œuvre pour répondre à cette problématique. C'est impressionnant, mais ce qui est vraiment impressionnant pour moi quand j'ai lu cela, c'est qu'ils ont mis en place ce qu'ils appellent un apprentissage organisationnel, à savoir ils ont mis en place une nouvelle approche pour traiter ce problème pour toute l'industrie de l'aéronautique. Et donc dans tous les niveaux de l'organisation, ils ont dû mettre en place cette modification de ce qu'ils appellent leur checklist. Et puis ensuite, ils ont fait une formation pour toutes leurs équipes de manière à ce que, eh bien, ce sont des pilotes qui devaient désapprendre quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire pour apprendre quelque chose. Ah. Et 10 mois plus tard, un autre vol de Shanghai à Atlanta, et s'est retrouvé exactement dans la même situation et ils ont réussi à atterrir sans problème. Pourquoi? Parce que le pilote, il a appliqué exactement la checklist. Qu'est-ce que ça me fait dire, ça? C'est que pour moi, dans mon organisation, c'est très très long de changer les choses comme ça. Si c'était quelque chose qui s'était passé dans mon hôpital, eh bien, on aurait eu un deuxième atterrissage d'urgence avec peut-être des blessés et on aurait été triste par rapport à cela. Et pas dans l'aviation. Alors, on sait qu'on a souvent comparé notre filière médicale à l'aviation. Mais vraiment, pour moi, ça, c'est un signal d'alarme, à savoir, il faut absolument changer la manière dont nous nous comportons et dont nous tirons les enseignements des problèmes, en traitant le problème. Donc, c'est très bien d'avoir ces programmes en ce qui concerne les facteurs humains, la formation, etc., dans une organisation quelle qu'elle soit. Vous avez toujours un service qualité, un service sécurité pour les patients, un service cadre clinique, et puis éducation. Et donc, ce sont des services qui ne se rencontrent que très rarement, finalement. Parfois, vous voyez qu'un service fait des choses que vous faites également, mais vous ne le saviez pas qu'il le faisait également. Donc, c'est important de voir que, eh bien, on fait de la formation pour nos équipes, mais pas de manière transversale entre nos services. Et donc, on a mis en place une méthode de manière à former l'ensemble des équipes de l'hôpital, pas uniquement les cliniciens, et de manière à ce qu'ils comprennent l'importance du facteur humain.
examen, du débriefing et de ce que nous faisons lorsque nous tirons les enseignements de nos problèmes. À savoir, ce qui est important pour nous, c'est également de voir qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens lorsqu'il y a un événement comme ça qui se produit, comme celui de l'aviation. Comment est-ce qu'ils pensent? Comment est-ce qu'ils réfléchissent? Comment est-ce qu'ensuite, eh bien, on arrive à faire modifier ces comportements? Également, il y a souvent le leadership qui doit être géré, qui doit évoluer, la manière dont on regarde le leadership et la manière dont ça fonctionne. On doit également investiguer les événements et tester la faisabilité de nos plans à mettre en œuvre ensuite. Nous sommes vraiment dans la mise en place de ce qu'on appelle l'organisation apprenante. Et c'est vraiment vers ça que nous essayons d'évoluer. Alors, pour parler des facteurs humains de nouveau, est-ce que vous êtes des professionnels du facteur humain? Qui est un professionnel du facteur humain ici dans la salle? Ah, il y a une, deux personnes? Voilà, maintenant je vais vous demander d'être tout à fait clément avec moi, s'il vous plaît, si vous posez des questions. Donc, si vous parlez de facteurs humains, souvent, finalement, on a une vision assez floue. On pense qu'il faut concevoir des systèmes avant de pouvoir interagir de manière à optimiser ces systèmes. Et donc, nous essayons de faire la même chose pour la simulation, à savoir que nous avons donc la conception du système qui est également donc dans notre stratégie. Et ici, très brièvement, j'aimerais vous parler d'un cas dans un hôpital pour enfants. Il s'agit donc du service de réanimation de l'aile d'urgence. Et il y avait donc un gros trauma, et vous voyez que les gens sont là, donc discutent et commencent à expliquer aux architectes de cet espace pourquoi est-ce qu'il faut changer la manière dont l'espace est organisé de manière à avoir un travail beaucoup plus efficace. Et donc, ici vous avez donc le scanner d'un enfant, vous le voyez ici. Ça m'a un petit peu choqué quand j'ai vu ces images finalement. Pour eux, c'est un mannequin qui est dans le scanner. Et donc, en fait, ils ont pris le patient et ils lui ont fait passer tout le processus normal. Et donc, nous fournissons du matériel qui n'est pas respiratoire, tout ce qui est circulation sanguine. Et donc, nous avons donc des programmes de simulation pour la réanimation et je crois que c'est la CEC. Nous avons changé notre scanner. Ici, bien sûr, vous avez un mannequin et pas un patient. Vous voyez quel est le problème, là? C'est quoi le problème sur cette image?
Translation's gone?
Mm-hmm. Oui. Okay, où est le problème sur cette image-là? La tête n'est pas du bon côté. Alors, le problème, c'est que ils ont conçu ce système, eh bien, il y avait un problème de câble qui ne pouvait pas arriver jusqu'au bout du scanner. Et donc, ce jour-là, eh bien, vous voyez en fait que les gens se demandent qu'est-ce qui se passe là, pourquoi est-ce qu'il y a un problème. Eh bien, il aurait fallu simplement augmenter la longueur du circuit de manière à ce que, eh bien, les pompes puissent passer sur le côté et on aurait pu traiter le patient. Alors, le lendemain, là, vous avez encore donc un mannequin, un patient et cette fois-ci, eh bien, on a pu mettre en place le mannequin et faire passer la pompe de manière à ce que la tête soit du bon côté du scanner. Et donc, c'est très important de concevoir à l'avance toutes les tâches que vous allez avoir à faire quand vous concevez en fait un espace et la manière dont il va être organisé d'un point de vue logistique. Et c'est pour ça que c'est très important de réaliser ces exercices. Et tous les mois, on demande aux équipes de réaliser un exercice sur un système important de manière à pouvoir simuler tout le processus de A à Z de manière à ce que chaque fois, eh bien, ils puissent améliorer la conception du système.
La dernière partie, c'est l'aspect de diagnostic. Et chaque fois, on revoit ça mensuellement. On examine une partie, une procédure des soins que l'on fournit. Et là, je n'ai pas besoin du son. C'est bon, ne vous inquiétez pas, je prends juste ça. Regardez ici l'exercice. Une simulation. On a donc un cœur, un simulateur de cœur qui bat ici, physiologique. Et le patient est attaché ou relié à ceci. Et dans ce cas précis, on leur a demandé « qu'est-ce qui vous fait le plus peur ?» Ils ont dit, en fait, si le système de délivrance d'oxygène est défaillant pendant que le patient est branché à ça, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, j'ai demandé « combien de fois est-ce que vous avez dû gérer à ça ?» Ce qui représentait 250 années d'expérience. Devinez combien de fois cette procédure a dû être mise en œuvre ? Zéro, pas une seule fois. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait cet exercice. Et ce qui est ressorti, c'est que cet homme ici, qui s'occupe de la perfusion, et il est soutenu par la personne derrière, ils étaient les deux seuls qui savaient où était l'oxygène. Et donc, s'il fallait modifier ça, il fallait qu'ils expliquent à quelqu'un où se trouvait l'oxygène ou quitter leur travail à la pompe. Donc, ils ont changé le lieu où se trouvait l'oxygène. Ils en ont parlé. Et du coup, je me suis dit, eh ben, si ça se passait la prochaine fois, eh bien, ils seraient capables de soutenir ce patient comme il le fallait. En résumé, ce que j'essaye de vous dire principalement ici, c'est qu'il faut avant tout modifier la culture dans laquelle nos organisations la culture à laquelle nos organisations sont soumises. Il faut toujours penser à la sécurité, c'est vrai. Mais la théorie et l'utilisation et la pratique nous dit que, à moins de faire ce que je dis que vous devez faire, vous aurez des problèmes. Et donc, il faut éviter pourtant de penser que bien ce que dit l'encadrement, ça ne tient pas debout. Non, il faut changer la culture. Et refaire émerger les raisons pour lesquelles les gens ont décidé de se lancer dans la profession de santé, combinant ceci avec l'idée d'un organisme en apprentissage permanent. On apprend ainsi consciemment sans apprendre par chance. Et ensuite, on l'intègre dans sa vie quotidienne professionnelle. Ainsi, par la pratique, on peut arriver à mettre en œuvre ce qu'on en apprend. Et ça, c'est important. Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et c'est ce qu'on dit à nos étudiants en médecine. Si on arrive à faire ceci, alors on arrivera, dans le domaine de la santé, d'avoir le même impact et la même excellence que l'on trouve dans l'aéronautique. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Des questions.
So David, I have a question for you about the learning curves.
J'ai une question sur la courbe d'apprentissage. Donc, la simulation et l'apprentissage rapide, est-ce que ça permet ainsi de déboucher à des niveaux plus élevés. Alors, je suis un pédiatre. Alors, évidemment, mes exemples viennent de ce monde. Mais si vous êtes un pédiatre et vous venez à l'hôpital en été, non, je recommence. Vous êtes un médecin, on les appelle des docteurs de famille aux États-Unis, mais bon, vous êtes un médecin de ville et vous venez l'été et il n'y aura peut-être jamais de patient qui souffre d'une bronchiolite. Et si vous allez après pratiquer la médecine de ville, c'est ça que vous aurez en hiver, mais vous n'aurez jamais rencontré de personne, d'enfant qui souffre d'une bronchiolite puisque vous avez fait votre internat en été. Le résultat, c'est que la simulation permet d'éliminer cet aspect de hasard ou d'être au bon endroit, au bon moment pour apprendre certaines choses. Et puis dans certains pays, on sait que ça n'est pas déontologique d'empirer l'état de son patient avant de commencer à le traiter. Donc il faut commencer à apprendre tous les niveaux de gravité du cas. Et si on le fait dans un système clinique, c'est compliqué, surtout qu'on n'est pas présent pendant des heures et des heures. Mais on peut travailler ça par le biais d'une simulation. Et les gens apprennent quelles sont les nuances et on peut ainsi accélérer leur courbe d'apprentissage. Et c'est d'une manière dont la simulation peut contribuer. L'enseignement clinique, évidemment, présente beaucoup de choses, mais il manque certains aspects, certains pans d'apprentissage.
Bien. Thank you very much, David.
Merci beaucoup, David.
À la demande de notre président Sofracim, je vous rappelle que pour ceux qui ne pourraient pas assister à l'Assemblée générale en toute fin d'après-midi, vous avez des procurations qui sont disponibles à l'accueil si vous souhaitez donner un bon pourvoi. Voilà, donc je vous invite à rejoindre la pause. Merci, à tout à l'heure.